Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Lionel Gougelot.
10h et bientôt 32 minutes, le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Il y a deux ans, un peu plus, Georges Tron, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et maire de Draveil en région parisienne, avait été blanchi des accusations d'agression sexuelle et de viol portées par deux anciennes collaboratrices. Deux ans après, dans un procès en appel, le voilà condamné à 3 ans de prison ferme pour les mêmes chefs d'accusation concernant cette fois une seule des plaignantes, Virginie Hetel, qui réagissait jeudi matin en exclusivité sur Europe 1 au micro de Guillaume Billet.
Quand j'ai entendu que tout avait été reconnu en ce qui me concerne, ça a été un soulagement parce que c'est ce que je demande depuis 10 ans, c'est d'être entendue. Parfois, j'ai voulu tout laisser tomber. J'ai subi des menaces, j'ai subi 2 agressions. Voilà, on parle de MeToo, maintenant la parole se libère et c'est quelque chose de très bien. Mais il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Et ça a été très très compliqué à gérer. Moi, je voulais juste qu'on me dise juste, on vous croit, vous êtes victime, ils sont coupables. Après, le reste m'importait peu, finalement.
Question pour vous, les grandes voix. Qu'y a-t-il de changé pour qu'une décision de justice contredise radicalement un premier verdict rendu par une cour d'assises? Rappelons qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux.
Un troisième verdict.
Écoutez, il y a une nouvelle donne qui est la conséquence d'affaires récentes. Indéniablement, plusieurs affaires de viol ont sensibilisé l'opinion à la détresse des victimes de violences sexuelles et à leur difficulté à se faire entendre et à être crues. Et je pense que c'est ce qui a joué. D'ailleurs, les attendus du verdict nous le disent très clairement. Le maire, Georges Tron, de Draveil, sous couvert de séances de réflexologie plantaire, assisté par son adjointe Virginie Hetel, ont exercé sur leur victime une contrainte morale qui a pesé au regard du lien de subordination de leurs employés sur lesquels ils avaient un ascendant moral et économique. Je lis.
C'est ce qui a caractérisé la définition.
Ce qui leur a permis d'autres déviances à caractère sexuel. C'est ça la principale leçon de ce verdict. Il n'y a pas de preuve au sens matériel du terme. C'est un raisonnement, une déduction, une manière toute nouvelle qui vient de naître d'apprécier le consentement forcé.
Alors rappelons que Georges Tron a toujours clamé son innocence, évidemment, dans ce dossier, qu'il a décidé de se pourvoir en cassation. Donc le dossier va continuer de courir devant la justice.
En attendant, il est en prison.
Il y a quelque chose de changé, manifestement, Catherine Ney, dans notre société et dans le rapport que l'on a à ces questions.
Depuis l'affaire Weinstein et puis tout ce qui en a découlé, puis les accusations qui tombent maintenant toutes les semaines, tout le monde, voilà. Mais il y a un changement d'atmosphère, ça c'est vrai. Mais dans ce changement d'atmosphère, on s'aperçoit aussi que la justice est devenue une loterie absolue. Vous voyez, c'est normalement le droit pénal, ça devrait être quelque chose qui s'applique d'une certaine manière ou non. Mais là, selon par qui vous êtes jugé, qui est juge, est-ce que ce sont des femmes, des hommes, la cour d'assises, ça change. Parce que Georges Tron, bon, moi je pense qu'il avait des comportements obscurs et que quand il recevait quelqu'un, il lui demandait tout de suite de lui masser les pieds. Bon. C'est, je veux dire, ce qu'il ne voulait pas dire, c'était ça, voilà, c'est une espèce d'addiction bizarre et très curieuse. En faire un violeur, il a dit qu'il n'avait pas eu de relation avec la plaignante, elle a dit autre chose. C'est un dossier complexe parce que c'est vrai que cette plaignante parce qu'il y avait 2 plaignantes et la cour n'a reçu qu'une, mais c'était une femme qui avait travaillé pour lui, qu'il avait viré parce qu'elle avait fait des achats personnels avec l'argent de la régie d'avance du cabinet. Bon. Donc, c'était quand même pas très bien. Ils s'en étaient séparés. Donc, après quoi, tout ce qui s'était passé entre eux, des séances avec son adjointe Brigitte Gruel, elle a porté plainte. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un non-lieu, un acquittement, et qu'une nouvelle cour d'assises a décidé 3 ans de prison ferme, alors que le parquet avait demandé 2 ans de prison et sans emprisonnement et avec un bracelet électronique. Donc, pas de prison.
Michel Cotta, votre analyse.
Juste pour sourire, j'ai très mauvais esprit. Mais j'espère que les magistrats ne se sont pas vengés du fait que l'avocat, vous connaissez l'avocat, le premier avocat, qui était Dupond-Moretti.
On reste à la marge.
Donc,
quand
j'espère,
même.
Ça reste, c'est non, devenu ministre. Moi, quand même, ce que je voudrais...
Vous en prie.
Que la parole se libère, c'est en gros une bonne chose. parce que ça, c'est vrai qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait tellement de femmes battues, tellement de femmes violées. Bon, c'est vrai que c'est très bien que qu'on dise ce qu'on a à dire. Mais évidemment, dans un cas comme dans l'autre, ces affaires sont toujours très compliquées. Je pense par exemple à l'affaire de ce comédien Berry.
Richard Berry.
Lui, il y a trois personnes, il y a quatre personnes qui sont en cause, trois nient qu'il se soit passé quelque chose d'anormal, la quatrième seulement porte atteinte. C'est vrai que ce sont des phénomènes difficiles, compliqués, sur lesquels il faut vraiment être très prudent, tout en se réjouissant qu'effectivement, moi je ne savais pas qu'il y avait tellement de jeunes filles violées à Sciences Po. Moi, j'ai fait Sciences Po, je n'ai pas été violée, donc je ne savais pas qu'il y en avait. Mais s'il y en a autant, c'est bien qu'elles le disent.
Gérard Carrérou, Georges Tron, victime de l'air du temps, comme disent certains de façon un peu cavalière.
Oui, c'est une façon, c'est un raccourci, effectivement. De quoi s'agit-il, effectivement? Les faits, Tron n'a pas changé. Les faits se sont passés il y a quelques années. Tron est toujours le même, les délits ou les crimes sont les mêmes, et le jugement de cour, souvenons-nous toujours de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Il était blanc acquitté, il est noir en prison. Qu'est-ce qu'est-il passé? Il y a une notion extrêmement simple qu'on voit à travers le jugement et que les avocats ont largement exploité, c'est la notion dite d'emprise et de contrainte. Les victimes aujourd'hui sont celles qui disent « j'ai été victime parce qu'il y a eu une contrainte morale ». Avant, pour un viol, c'était souvent une contrainte physique. Là, c'est une contrainte morale. C'est-à-dire, c'était mon patron. Je ne pouvais pas refuser puisque c'était le boss. Et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où les juges mettront en numéro 1, en lettre d'or, la notion de contrainte morale, je dirais, attention messieurs, faites bien attention, ne n'ayez pas d'histoire d'amour avec une de vos secrétaires, parce qu'on pourra toujours dire, quand elle se découvrira il y a quelques
temps... La notion du consentement a évolué.
La notion du consentement n'est plus du tout la
c'est
même.
Ça, c'est ça la nouvelle, c'est ça, la nouvelle donne. Charles. C'est la contrainte morale et la contrainte économique. Le lien de subordination comprend les deux, si vous voulez. Mais le problème qui est en train de se poser, on le voit à travers aussi l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, il y a un emballement actuel. Cet emballement actuel, finalement, il se situe au niveau du tribunal médiatique, qui entraîne quand même pas mal de choses, y compris sur l'esprit des magistrats, et qui devrait s'effacer devant le droit. C'est-à-dire que petit à petit, on oublie les principes de la présomption d'innocence et le bénéfice du doute qui doit toujours profiter à l'accusé. C'est ces notions-là qui peuvent changer.
On va marquer une pause et on va revenir sur cette question. Une pause et on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. Lionel Gougelot.
Retour dans le débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta. Ce matin, on poursuit notre discussion sur la libération de la parole sur les violences sexuelles. On a parlé du verdict auquel Georges Tron a donc été condamné cette semaine. Il intervient au cœur d'une formidable séquence donc, de libération de la parole, d'accusation même sur des institutions comme Sciences Po, des personnalités mises en cause comme Richard Berry ou tout dernièrement Patrick Poivre d'Arvor. Pardonnez-moi la simplicité de la question, Gérard Carrérou, mais où est-ce que ça va s'arrêter?
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas s'arrêter. Ce qui est clair, c'est que le début... Vous avez vu MeToo, vous avez vu l'emballement de MeToo, et ça ne s'est pas arrêté. Et là, ça ne va pas s'arrêter non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un changement de mode qui pourrait durer quelques mois ou quelques années. Je pense que c'est un changement total de la morale des nations, si vous voulez. Et ce n'est pas par hasard. Si ce changement est parti des États-Unis et des universités américaines et d'un pays où on n'ose pas monter dans l'ascenseur avec une femme parce qu'on a peur qu'elle vous dise que vous l'avez harcelée entre le premier et le huitième. Bon, c'est une façon d'être qui va d'ailleurs être largement exploitée par les féministes dévoyées, parce que je ne confonds pas les féministes, qui est une cause, à mon avis, noble, et le féminisme dévoyé qu'on vit actuellement, c'est-à-dire prendre le prétexte du féminisme pour tout un ensemble de choses. Mais c'est ça qu'on est en train... C'est-à-dire qu'au fond, on a un retour violent à un puritanisme qu'on n'avait peut-être même jamais connu dans notre pays, sauf à des époques extrêmement lointaines. Ce puritanisme, et il passe en plus par un changement de génération. Il y a une différence d'appréciation de ces faits entre la génération des gens, disons, de plus de 50 ans et la génération des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans. Oui. Je pense, et on le voit dans les sondages, il y avait une certaine forme de tolérance pour ce qu'on appelait autrefois la drague, le libertinage, etc. Tout un ensemble de choses qui ont fait les joies de notre littérature et les trésors de notre littérature, mais qui finalement, aujourd'hui, sont devenus quelque chose qui n'est plus
accepté. Je trouve que c'est très bien. Mais quand on prend les cas, il ne s'agit pas là de dénoncer les gens qui vous bousculent dans les ascenseurs. Un maire de Draveil n'a pas à caresser les pieds, point final, il n'a pas à caresser les pieds de ses collaboratrices.
Oui.
Bon, et il n'a pas...
Mais est-ce que ça vaut 3 ans de prison?
Ça, je ne sais pas, ça, c'est la justice qui l'a dit.
Bah oui,
et il n'a pas non plus à profiter...
Non, mais c'est-à-dire...
Il n'a pas à profiter...
Laissez finir, Michel.
De son statut de maire pour faire ce qu'il veut avec ses collaboratrices.
On est d'accord.
Parce que les mêmes collaboratrices peuvent dire « Mais moi, si j'avais refusé, il m'aurait foutu dehors. Qu'est-ce que j'aurais dit à mon mari ?» Bon, ce harcèlement sexuel-là est absolument intolérable. Oui. Et moi, pour ma part, j'avais été très étonnée que la première fois, ça passe si facilement.
Oui. Ce qui renforce, si vous voulez, le propos de Michel Cotard, c'est, restons sur les attendus du jugement, c'est que ce lien de subordination qui était important, comme l'a défini sur le plan moral Gérard, mais qui était aussi économique, puisque c'était les salaires, ce lien de subordination lui permettait, si vous voulez, de dévier à partir de cette réflexologie du pied à des jeux sexuels. Et c'est ce qui a été aussi jugé dans cette affaire.
Bien sûr,
et
c'est en cela,
si vous voulez, que la condamnation peut paraître sévère, mais elle est allée au-delà, si vous voulez, de ce que prévoit le tarif normal, mais elle est justifiée. Elle se justifie. Le problème dans la question que vous posez, Lionel, c'est que, si vous voulez, le tribunal médiatique est en train d'emballer le système. Et il faut faire attention, si vous voulez, il faut un frein à tout ça, parce que ça va tourner au lynchage, et notamment des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, le fait même que le ministre de la Justice, par rapport à l'affaire Kouchner, notamment sur le fait qu'il y a prescription sur l'inceste et sur l'accusation, si vous voulez, d'Olivier Duhamel, a essayé peut-être de changer la loi. C'est justement ce qu'il ne faut pas éviter, parce que 30 ans, si vous voulez, de non-prescription, c'est très important. Il faut laisser la prescription, l'imprescription, si vous voulez, au crime contre l'humanité.
Mais alors justement, quand une affaire est étalée sur la place publique, que la justice ne peut pas s'en saisir et qu'elle est jugée finalement sur les réseaux sociaux ou dans les médias, qu'est-ce qu'on fait? Comment on...
Mais il y a un temps pour tout et il y a le temps de la justice. Et c'est à la justice, justement, de ramener le calme et de juger ce qui, au bénéfice du doute, il ne faut jamais l'oublier. De toute façon, il y a des principes. Il faut les respecter.
En attendant la justice, on déshonore ou on compromet un certain nombre de gens, parce que la justice médiatique, bon, quand je vois tel journal du matin, que je ne citerai pas, c'est-à-dire Le Parisien, qui fait des unes répétitives sur notre... Je ne sais pas ce qu'il y a dans... Moi, je n'ai pas lu... Les attendus,
sur Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol
sur
par une
PPDA, romancière. Je ne sais pas ce qui lui est précisément, à part les deux phrases qu'on a entendues, reprocher. Mais ce que je constate, c'est que déjà, les unes répétitives de la presse du matin, je constate pour Richard Berry, pour l'instant, il est présumé, il n'y a rien du tout. Mais le film qui devait passer sur une chaîne de télévision publique a été déprogrammé. C'est-à-dire qu'avant même que toute forme de justice, sauf la justice médiatique, se soit prononcée,
mais
eh bien,
ça, c'est de
on
notre
punit,
faute.
On punit.
Oui, pardon, mais c'est incroyable.
Mais bien sûr, je mets en cause les médias.
Charles a raison de dire qu'il y a deux temps pour ça. Il y a effectivement le temps des médias et des réseaux sociaux qui devient fou, qui déborde tout, et puis le temps de la justice. Et de
ce point de vue-là,
je veux dire qu'il y a une différence sans doute entre la sentence sur Tron et la sentence peut-être qui sera sur Olivier Duhamel ou...
Oui, mais l'emballement médiatique, te condamne à la mort sociale.
Voilà.
Merci. On va marquer une dernière pause, si vous le voulez bien.
Des vies brisées dans les familles.
S'il vous plaît, Catherine, une dernière pause dans ces discussions. Et on va revenir sur le bilan Premier bilan de l'opération Barkhane au Sahel. À tout de suite.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.